Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais traiter cette semaine d'un sujet à la fois sensible, pas facile et un peu original pour cette chronique, c'est le Hezbollah, puisqu'on en parle de partout. On croit même comprendre que c'est de sa faute s'il y a la guerre avec Israël. Enfin, on entend des choses assez extraordinaires. Et donc, je voulais en savoir plus. J'ai d'abord travaillé pour moi-même et je vais vous faire part de ce que j'ai compris. Alors, Hezbollah, ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire le parti d'Allah. C'est effectivement le parti de Dieu, ça dépend des versions. C'est effectivement un parti politique et militaire, enfin, avec son groupe paramilitaire, islamiste, chiite et libanais. C'est important de noter le caractère libanais, même si le Hezbollah s'est mouillé dans des conflits au-delà du Liban. Alors, il est actuellement le parti tout de même le plus important du Liban, même si le Liban est un pays où on respecte a priori les différentes confessions, mais néanmoins, le Hezbollah est très impliqué au Liban. Il est classé mouvement terroriste par certains pays, dont la France. On va décortiquer un petit peu tout ça. Alors, sa création tout d'abord, puisque c'est pas si vieux, il a été fondé à la suite de l'invasion israélienne au Liban en 82, et il se présente comme un groupe de résistance à l'occupation israélienne du sud Liban, puisque vous le savez sans doute, il y a eu de multiples périodes d'occupation, et là on y est en plein avec la soi-disant zone de sécurité. Donc c'est comment dire, une obsession pour l'extrême droite israélienne de coloniser le Liban. Ça date pas d'aujourd'hui. Alors, j'ai dit tout à l'heure organisation terroriste, puisqu'il y a eu également des méthodes qu'on peut qualifier de terroristes, avec des prises d'otages et des attentats depuis sa création, à l'encontre des États-Unis, à l'encontre de l'Arabie Saoudite, de la France et d'autres pays. Alors, son idéologie tout d'abord, alors bon, on a vu que c'était un parti religieux islamiste chiite. C'est intéressant de lire sa charte, alors ses chartes au pluriel d'ailleurs, puisque la charte de 1985 a été révisée en 2009, elle ne dit plus la même chose, où on trouve des éléments importants. Alors, derrière un charabia religieux qui est difficile à comprendre pour moi, qui n'est pas croyant, mais tout de même on essaye de lire pour essayer de savoir exactement de quoi il retourne. Alors, le Hezbollah se présente avec deux objectifs. La résistance armée contre l'occupation israélienne, qui est une réalité historique au Liban, à la suite notamment de l'invasion de son pays en 82, et l'établissement d'un État islamique. Mais ça va disparaître avec la charte de 2009. Donc, dans cette nouvelle charte, il n'y a plus la volonté de créer un État islamique, et il y a même d'ailleurs la volonté de coopérer avec le pouvoir politique officiel du Liban. Donc, on n'est plus dans cette caractéristique-là. Donc, c'est important de le dire, comme c'est important de dire aussi que si la résistance à Israël est toujours dans la charte, pour autant, il n'est plus question de destruction de l'État d'Israël. C'est important de le dire, puisqu'on l'entend régulièrement par tous les commentateurs, comme si c'était, en fin de compte, cet objectif politique d'aujourd'hui, et ça sert de repoussoir pour diaboliser donc le Hezbollah, qui n'a pas besoin de ça, pour le diaboliser, le diaboliser, comme d'ailleurs ça a été aussi le cas pour le Hamas, qui ni l'un ni l'autre, dans leur statut contemporains ne réclament aujourd'hui la destruction d'Israël. Alors, il y a des passages intéressants dans cette charte, donc révisée 2009, qui dénonce le capitalisme sauvage comme source d'aliénation. Bon, moi, ça me plaît bien. Enfin, en tout cas, la phrase me plaît. La charte ressente les objectifs donc, d'un parti à long terme qui se présente toujours, par contre, avec des objectifs de lutte contre Israël et les États-Unis. À noter qu'il parle pratiquement plus des États-Unis que d'Israël. Pour eux, pour le Hezbollah, Israël n'est qu'un outil des États-Unis. Alors, cette charte indique que l'Hezbollah promeut le rôle de la femme dans la société, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la décentralisation et la préservation de toutes les libertés publiques. Il se prononce contre toute forme de partition du pays et il y défend le multicommunautarisme. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Donc on peut dire que, en tout cas sur le papier, on n'y retrouve pas, sur ce passage-là uniquement, j'entends, véritablement, de la même chose qu'on peut retrouver dans des partis fanatiques, extrémistes, comme on en a dans d'autres régions du monde. Alors, un point sur la place de la femme tout de même. L'organisation, le Hezbollah, n'est pas fondamentaliste vis-à-vis des femmes et ne cherche pas à imposer la charia à ses propres partisans et partisanes. D'ailleurs, les femmes dans les régions du Liban où le Hezbollah est fortement implanté sont libres de s'habiller comme elles veulent. Et si je le dis, c'est que par rapport à ce sujet-là dans d'autres pays du Moyen-Orient, c'est tout à fait différent. Donc la place des femmes pour le Hezbollah n'est probablement pas celle que l'on a en France, mais en tout cas est quand même nettement différente de celle qu'on va retrouver dans les pays, différents pays islamiques du Moyen-Orient. Alors, je n'ai pas dit ce que représentait véritablement le Hezbollah dans le Liban. Alors, les musulmans chiites, ils représentent dans la population libanaise 27%. Bon, voilà ce que ça représente. Ils sont pour la plupart concentrés au sud Liban, mais c'est pas une frontière, hein, c'est simplement des zones d'influence. Et le Hezbollah est reconnu, il est reconnu avec deux ministres au gouvernement, alors, et 13 députés au Parlement. Donc mes chiffres datent peut-être un peu, puisqu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est difficile de savoir véritablement là où on en est, mais en tout cas, dans la période relativement récente, le Hezbollah est à la fois au gouvernement et siège à la Chambre des députés. Alors j'ai dit que 27% de la population du Liban est chiite. Et si je regarde après les effectifs mobilisables pour le Hezbollah, là le chiffre est évidemment différent, forces armées et autres. Alors les chiffres sont très variables selon les sources. On a même vu jusqu'à 100 000 combattants, c'est probablement exagéré, ou mobilisables, enfin en tout cas membres du Hezbollah. Et en ce moment, évidemment, les choses sont très différentes avec la répression que vous connaissez. Alors, la structure du Hezbollah est assez intéressante à examiner, puisqu'en fin de compte, on dit que c'est un proto-État, en fin de compte, un État dans l'État. Il a des structures politiques très organisées dans le domaine, évidemment, de la lutte, mais aussi dans le domaine social. Je vais y revenir. Alors, un mot sur l'antisémitisme du Hezbollah. Alors, c'est une situation délicate, puisque quand on est dans une situation de guerre et que l'adversaire se présente comme État juif, évidemment, c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Néanmoins, dans cette charte de 2009, dans les discours officiels, le Hezbollah affirme, comme l'Iran d'ailleurs, et comme le Hamas également dans ses statuts, qu'il fait la distinction entre le judaïsme et le sionisme étant une politique coloniale. Cependant, évidemment, je dirais, dans d'autres déclarations, nombreuses déclarations peuvent être qualifiées d'antisémites, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué quand l'adversaire se prétend État juif. Ça complique un peu les choses, même beaucoup. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'antisémitisme. Alors, évidemment, on a des formules que l'on peut qualifier exactement d'antisémites dans le contexte, que je n'excuse pas, évidemment, je cherche à l'expliquer. Alors, ce fameux classement comme organisation terroriste, là aussi, il faut être très prudent. La grande majorité des pays du monde ne le classe pas comme tel. Cette grande majorité, je voulais donner un chiffre, mais c'est un petit peu comme le Hamas, hein, on peut dire que c'est près de 90% des pays du monde qui ne classent pas le Hezbollah comme organisation terroriste. Mais bien évidemment, on va retrouver, disons, l'influence politique des États-Unis pour le classer comme tel, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, à peu près tous les pays du Golfe qui sont sunnites, ce sera principalement leur point de repère à eux. Un seul pays en Amérique latine, le Paraguay, quasiment pas, en tout cas j'en ai pas trouvé, de pays en Asie ou en Afrique noire, il n'y en a pas. Alors au niveau de l'Union européenne a fait des déclarations pour classer le Hezbollah comme pays terroriste. Alors je dis bien l'Union européenne parce qu'on ne va pas retrouver tous les pays européens qui vont le dire comme tel au niveau d'une décision au sens national du terme. Et l'ONU ne classe pas le Hezbollah comme une organisation terroriste. Voilà pour le paysage, je le dis simplement pour qu'on comprenne que ce qu'on nous dit en France, organisation terroriste, c'est pas forcément partagé sur la planète. Alors quelque chose de remarquable, si l'on peut dire, c'est que le Hezbollah a condamné les attentats du 11 septembre. Il a condamné les attentats de Al-Qaïda qui ont pris donc comme cible les civils à plusieurs occasions, notamment bien sûr les tours jumelles. Le Hezbollah a dénoncé les massacres en Algérie qui étaient perpétrés par les groupes islamiques armés et il a dénoncé aussi les attentats du 13 novembre 2015 en France. Alors, ça ne suffit pas pour les blanchir, évidemment, mais simplement, je voulais apporter quand même des points de réflexion sur la question. Et puis, en matière de terrorisme, je voudrais surtout dire qu'il faudrait d'abord se mettre d'accord sur les définitions, puisque est-ce que c'est du terrorisme que de réaliser un génocide dans la bande de Gaza, de commettre des bombardements massifs sur la population, sur la capitale du Liban tout de même, de voler des terres, de détruire les infrastructures sociales, les hôpitaux, etc. Pour moi, ça en est un. Par contre, ce n'est pas présenté comme ça dans les grands médias. Là encore, ça n'excuse pas, mais quand même, il faut chercher des éléments pour comprendre. Alors, une des caractéristiques du Hezbollah, c'est son rôle social dans le Liban. Il est très actif dans le domaine social, par le biais d'hôpitaux, d'écoles, d'orphelinats, qu'il finance, des cliniques. Donc, sauf bien sûr dans cette très récente dernière période, on voit qu'il tient à se marquer sur le plan social par rapport à des services gratuits et bon marché, notamment pour des secteurs de la population les plus défavorisés. Une des caractéristiques aussi qui n'est pas anodine du Hezbollah, c'est Bien sûr, non, puisque je ne le savais pas jusqu'à ouvrir le dossier, c'est la question de la corruption. Il y a énormément de corruption dans les pays de cette partie du monde. Je ne vais pas tous les lister. Bon, le Liban, c'est le cas. Israël, c'est le cas. Des problèmes de corruption importantes à l'OLP, c'est le cas. Les pays du Golfe, bon, c'est la corruption naturelle, puisqu'on va y mettre au pouvoir des gens qui prétendent faire partie de la noblesse locale, en quelque sorte. Mais le Hezbollah est reconnu pour une organisation qui lutte efficacement contre la corruption, ce qui ne va pas être, disons, la caractéristique des autres pays et des autres organisations de la région. Voilà ce que je voulais dire aussi par rapport à ces caractéristiques. Alors, la question du désarmement a été largement posée. Elle revient régulièrement sur la table de dire qu'il faut désarmer le Hezbollah. Certes, mais il faut aussi regarder ce qui se passe au Liban. Au Liban, on a deux problèmes. L'armée libanaise qui est incapable de faire son boulot, pour faire court, et ça ne date pas d'hier. D'ailleurs, les forces militaires Hezbollah sont supérieures en nombre à celles de l'armée régulière libanaise. Il y a certainement des raisons. Quand je dis faire son boulot, c'est de garder ses frontières. Et puis, on a le problème particulier aussi de la FINUL, donc la force d'interposition de l'ONU qui est en place depuis longtemps pour protéger en quelque sorte, enfin garantir la frontière entre le Liban et Israël, laquelle est attaquée régulièrement. Alors il y a des accusations sur le Hezbollah, mais principalement historiquement par Israël, avec l'interdiction pour la FINUL de répondre, et la FINUL qui vient de décider, enfin l'ONU qui vient de décider, de retirer sa force d'interposition, puisque d'une part elle est menacée, et d'autre part elle est inefficace compte tenu du contexte et des directives qui sont données. Donc retirer cette force d'interposition, alors qu'on pourrait penser que c'est la meilleure solution, à condition de lui donner les moyens d'être efficace, pose quand même un énorme problème, d'autant plus qu'on demanderait au Hezbollah de se désarmer, ce qui de toute façon est impossible à obtenir. Si je dis ça, c'est que politiquement proposer quelque chose dont on sait que ce ne sera pas accepté, c'est la meilleure façon de ne pas obtenir une paix durable. C'est un peu comme si on demandait à Israël de se démilitariser. On peut le demander, on sait qu'ils vont refuser, et on sait comme ça qu'on pourra dire « Ah ben, ils ne veulent pas être démilitarisés ». Mais on pourrait imaginer que s'il y a démilitarisation dans la région, ce soit de part et d'autres, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je l'ai dit, le Liban, pour différentes raisons, a une armée qui est tout à fait inefficace. Voilà sur le plan du désarmement. On pourrait l'espérer. D'ailleurs, il faut l'obtenir, mais pour l'obtenir, il faut créer les conditions. Et on en est très, très loin. Alors, un dernier aspect, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quand on est français, évidemment, c'est les relations avec le Hezbollah et les différentes organisations politiques au Liban. Il y a quelque chose qui fédère, en quelque sorte, en tout cas, qui les réunit très souvent autour de la table. Il y a des accords qui sont passés avec des mouvements politiques très différents. La droite chrétienne du Liban, les mouvements progressistes, communistes, athées, hein, se retrouvent régulièrement autour de la table avec le Hezbollah. Donc ça, on a du mal à l'imaginer vu de chez nous, notamment sur le sujet de la défense du territoire et sur le sujet de la solidarité avec le peuple palestinien. Et si je le dis, c'est évidemment qu'on ne peut pas le deviner si on n'a pas creusé un peu le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu brossé rapidement sur le Hezbollah. Alors, non pas pour le déqualifier, hein, il est bien qualifié d'organisation terroriste par la France, mais je vous ai dit aussi que ce n'est pas le point de vue général sur la planète. Non pas pour l'excuser non plus, mais simplement pour relativiser lorsqu'on nous fait croire dans les grands médias que le problème numéro un, ce serait le Hezbollah. Et presque, si on n'a pas suivi l'actualité, que la guerre qui a été engagée il y a peu de temps entre l'Iran, l'Israël, les États-Unis et donc le Liban, finalement, ce serait essentiellement la faute des agressés et pas des agresseurs. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai éclairé un peu votre lanterne sur le sujet, et je le redis, hein, c'est pas l'apologie du terrorisme, puisque dans cette partie du monde, malheureusement, le terrorisme n'est pas le fait d'une seule organisation. Je dirais bien au contraire, malheureusement. Avant de vous quitter, une information très différente, une information locale, un projet de construction de méthaniseur sur la commune de La Capelle-Livron, entre Parisot et Quélus, qui pose énormément de questions. Et c'est pour ça qu'une étude d'impact a été réalisée par des gens qui ont la prétention de pouvoir le faire, d'autant plus qu'elle n'est plus obligatoire de par la loi, cette étude d'impact, qui a demandé 5 mois de travail et qui va être présentée au public lundi 27 avril à 18h à la salle des Granges de Quélus. Donc cette étude d'impact qui a pour vocation d'examiner tous les sujets, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans tous les aspects par rapport aux riverains, par rapport à l'environnement, par rapport à l'agriculture, par rapport aux finances publiques, etc., va être présenté. Donc si vous voulez essayer d'y comprendre quelque chose, de poser des questions, ben, c'est le moment de venir à cette réunion publique, donc lundi 27 avril à 18h, à la salle des Granges de Quélus. Je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Quélus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.